Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Toutes ces photos sont extrêmement importantes pour nous. Justement pour mieux comprendre et mieux distinguer les lieux. Car vous l'avez vu, il n'en reste pas grand-chose. Presque tout est détruit ou a été rasé. Puis, ce qui est très important pour nous, c'est de pouvoir identifier les personnes. Ici, grâce au numéro sur les photos, nous faisons très souvent des recherches, car nous recevons régulièrement des demandes de la part de petits et arrière-petits-enfants. Avez-vous une photo de notre papy ? Dans de très rares cas, nous possédons effectivement des photos des détenus survivants. Et enfin, ces photos ont pour nous une importance historique.
Grande traversée, Lee Miller.
Nous arrivons à la première étape. Là, devant, c'est la porte du camp. On y voit les habitants de Weimar qui font la queue pour visiter le camp.
Dieser 16. April
Holmkirsten
ist für die Häftlinge auch ein wichtiger Tag.
Ce 16 avril est un jour très important pour les détenus. Parce qu'ils revoient alors pour la première fois des civils. Et beaucoup parmi eux éprouvent bien entendu une énorme haine envers les habitants de Weimar, qui vivaient en contrebas de Buchenwald. Ils savent bien sûr qu'ils n'auraient rien pu faire, ils ne pouvaient même pas s'approcher d'une clôture du camp pour leur donner un peu de pain ou quelque chose. Les détenus préparent tout. Ces populations civiles allemandes doivent suivre un parcours à travers différents baraquements et différents bâtiments. Le bâtiment de la porte d'entrée en fait partie, bien sûr. Il y a des baraquements du petit camp, qu'on appelait les baraques écuries, qui n'avaient pas vraiment de fenêtres. On y trouvait ces grands lits superposés, hébergeant énormément de prisonniers. On leur a fait traverser ces baraques.
Neben dem Krematorium befand sich die ehemalige.
À côté du crématoire se trouvait l'ancien bloc de pathologie.
Und da wird ein Tisch aufgebaut hier im Freien.
Les détenus y ont installé une table en plein air sur laquelle sont exposées des réalisations faites dans le service de pathologie, de façon à ce que les gens de Weimar voient bien ce qu'on a fait ici, avec une tête réduite, une peau humaine tatouée, des organes, etc.
Mit Organpräparaten und ähnlichen Dingen.
On a beaucoup de photographies de cette journée et de cette visite des habitants de Weimar.
Lee Miller n'est pas la seule à avoir
pris des photos, mais elle l'a fait aussi. Là, on a une vue, sans doute prise d'ici, sur les habitants qui attendent. Tous ces bâtiments qui se trouvaient dans ce secteur n'existent plus.
Da wissen wir zum Teil auch gar nicht genau, welche Funktion die hatten. So, das ist das eine Bild.
Ils étaient tous en bois, mais on ne sait pas très bien quelle était leur fonction. Voilà. Donc ça, c'est une première photo. Il y en a d'autres.
L'armée a eu une très bonne idée. Ils ont forcé le maire d'Ordurf à venir voir ce qu'ils ont trouvé. Lui et sa femme se sont suicidés cette nuit. Les rouleaux ci-joints sont des photos prises à Buchenwald et à Weimar. car même si le Rotary Club local de la Gestapo n'en a pas fait la publicité, un flux régulier de visiteurs arrive dans le camp pour voir l'horreur. Ils ne sont pas comme ces curieux qui venaient voir les dégâts du Blitz à Londres et gênaient les travaux, ni des voyeurs désœuvrés. Ce n'est même pas une procession funéraire, ni des touristes. C'est un curieux mélange de motifs et de réactions. Le général Patton a pensé que, puisque les habitants de Weimar disaient qu'ils n'avaient jamais entendu parler de la brutalité des camps, il était temps de leur faire comprendre pourquoi le monde s'en prenait à ce pacifique et innocent peuple allemand. Patton a ordonné que des milliers d'habitants de Weimar, de tous sexes, tous âges, viennent dans ce camp. Ces gens disaient ne rien savoir, alors qu'on enterrait des milliers de cadavres à quelques pas de chez eux, et qu'ils sont bien connus pour aimer la randonnée avec leur sac à dos.
Die Zivilien.
Ja.
Ich erinnere mich, sie.
Il y avait ces civils. Elle a écrit sur la haine qu'elle ressentait pour eux.
Ja.
Sie über Hass.
Ja, das finde ich eigentlich nachvollziehbar.
Oui, also, cette haine est compréhensible.
Wir haben von wenigen Fotografen tatsächlich
quelques photographes ont en effet commenté leur travail.
Die meisten haben fotografiert,
la plupart ont pris des photos, mais n'ont rien écrit.
Also Margaret Bourke-White, zum Beispiel,
comme par exemple Margaret Bourke-White, qui était là aussi.
Geschichte, wie sie das
empfunden. On ne sait rien sur elle, ce qu'elle ressentait, si elle était remplie de haine envers les Allemands. On le sait en revanche pour Lee Miller. Plus elle plongeait dans la guerre, plus elle était effrayée et plus elle ressentait, je crois, de la colère contre les Allemands. Cette haine concerne d'abord la population civile, puis bien sûr aussi les SS. C'est donc un point de vue très particulier que propose Lee Miller dans ses photos des camps. Elle procède de la même façon à la RAO, où elle prend des nombreuses photos de SS morts ou faits prisonniers.
Il
n'y a qu'elle qui fait ça. Ou disons que nous ne connaissons pas d'autres photographes avec de telles images.
Farley Farmhouse. Anthony Penrose.
We have the photographs.
Nous avons ces photographies de Buchenwald et de Dachau. Mais elle est aussi vraisemblablement allée à Ohrdruf et à Penig.
Some of those photographs.
Certaines de ces photos sont extrêmement difficiles à regarder.
When you take them also with her sequence of children.
Quand on les prend avec sa série sur les enfants agonisant à l'hôpital de Vienne.
Exactly how hard it was.
On mesure à quel point ça a dû être dur pour elle d'être témoin de tout ça.
When she got through to Paris at the time of liberation.
Quand elle est arrivée à Paris au moment de la libération, la guerre a pris une tournure très personnelle pour elle, parce que beaucoup de ses amis juifs n'étaient plus là. Vous savez combien de juifs ont été raflés et assassinés sous l'occupation à Paris et dans le reste de la France. Y compris des enfants. À son retour, où étaient passés tous ces gens? Il y avait énormément de juifs employés dans l'industrie de la mode. Les petites mains, les tailleurs, les couturières, certains créateurs, etc. Ils n'étaient plus là. Ils avaient disparu. Mais où? Ce n'est qu'une fois en Allemagne que toutes ces terribles rumeurs sont devenues réalité, quand elle a commencé à visiter les camps. Et elle a compris ce qui était arrivé à tous ces gens qui étaient ses amis. C'était des gens qu'elle connaissait, avec qui elle avait travaillé, des gens qu'elle aimait et respectait. Elle a soudain compris comment ils étaient morts. Max Jacob, Robert Desnos, disparus. Je pense que cette blessure de l'âme n'a jamais pu s'effacer par la suite. Pendant très longtemps, tout le temps où je l'ai connue, en fait, elle manifestait une haine non déguisée à l'égard des Allemands. Elle m'avait fait promettre de ne jamais avoir d'amis allemands. Je suis très content de ne pas avoir tenu ma promesse parce que j'ai travaillé avec des Allemands merveilleux, avec qui j'ai organisé des expositions formidables. J'ai des amis allemands pour lesquels j'ai beaucoup de respect et d'affection. Mais je peux comprendre pourquoi elle les considérait comme des gens malfaisants.
Les touristes, invités par le général Patton, s'évanouissent partout, bien que certains restent arrogants. Et encore une fois, le camp a été nettoyé par des soldats rompus à la bataille, qui ne se remettent pas de ce qu'ils ont vu.
Je pense qu'une majorité des habitants de Weimar avaient vraiment honte. Mais ils n'en ont pas parlé. J'ai grandi ici, à Weimar, et j'avais une maîtresse qui avait été obligée, alors qu'elle était encore une jeune fille, de venir voir le camp. Elle n'en a jamais parlé. Jamais. Cela avait été horrible pour elle, bien sûr, mais Weimar avait évidemment aussi énormément de relations d'affaires avec Grunewald. Les boulangers, les marchands de bois, de charbon, etc. Mais ces gens n'ont pas vu ce qui se passait à l'intérieur de la prison du camp, dans les baraquements du petit camp. Ils venaient seulement jusqu'au portail. Mais ils savaient qu'il y avait des prisonniers. Et ils savaient aussi qu'il y avait des morts. Celle-ci est encore une photo artistique, prise à contre-jour de la porte du camp. Ce sont sans doute des soldats américains et des détenus libérés. Certaines photos, comme celle-ci, sont assez connues.
Relativ bekannt, also hier hat Lee Miller natürlich auch inszeniert einen schwarzen GI.
Ici, c'est évidemment une mise en scène de Lee Miller, un GI noir et une femme dans un costume traditionnel. Là, ce n'est pas celui de Thuringe, je ne sais pas lequel
c'est.
Toutes ces photos ont été prises le 16 avril. Pour d'autres, nous ne pouvons pas certifier le jour exact. Nous supposons que Lee Miller est resté seulement quelques jours, deux ou trois, pas plus.
Le camp a déjà été beaucoup nettoyé. Il n'y a plus de cadavres encore chauds. Et ceux qui vont mourir sont à l'hôpital. Tout le monde a déjà reçu un repas, voire deux, ce qui les a rendus malades, car leur estomac a rétréci et ils ne peuvent plus recevoir tant de nourriture. Beaucoup de garçons m'ont raconté avoir rêvé d'un repas ces dernières années, mais qui n'ont pas pu avaler plus de trois cuillères de celui qui leur a été servi.
Comment peut-on décrire l'atmosphère de ce mois d'avril?
Oui, comment décrire l'atmosphère tant d'années après? On ressentait bien sûr une immense joie. Les SS avaient été renversés. Et l'Allemagne d'Hitler battue. Ici, sur le portail du camp, étaient accrochés toutes sortes de drapeaux. Le drapeau américain, le drapeau français, pendant quelque temps. Et là, en face, se trouvent trois baraques où on avait logé les détenus soviétiques. Ceux-là avaient décoré leurs baraques avec des photos de Staline et des drapeaux de l'Union soviétique. Et ici, on avait installé un monument provisoire qui ressemble un peu à un obélisque.
Dieser Obelisk, wenn man von Weimar kommt und dann
on l'aperçoit quand on arrive de Weimar et qu'on tourne vers cette partie de la forêt, en direction de Buchenwald.
Das ist ein erstes Denkmal, was hier entsteht.
C'est le premier monument construit ici. Wird
hier ganz groß gefeiert.
Le 1er mai 45 est grandement célébré ici à Buchenwald. Il y a des défilés de différentes nations avec leurs drapeaux respectifs. On fait des discours, on parle politique. Mais cela n'intéresse pas tous les détenus. Les détenus du petit camp continuent à lutter contre la mort.
Et
il y en a beaucoup qui meurent encore. Je n'ai pas en tête le nombre de ceux qui meurent après la libération, mais c'était énorme. Et ce qui leur importait le plus alors, c'était quand est-ce qu'on mange? Quand est-ce qu'il y aura le prochain repas? Quand est-ce que je pourrai remarcher? Car ils étaient pour la plupart squelettiques, tellement ils avaient maigri. Tandis que les détenus du camp principal préparaient déjà leur retour chez eux. Cela s'est passé de façon assez ordonnée. Des commissions de rapatriement arrivent assez vite, de France, de Belgique. Les Français et les Belges quittent le camp pratiquement ensemble. On les renvoie par avion depuis un aéroport. Les personnalités éminentes françaises, comme Marcel Paul et quelques autres, sont de retour à Paris dès fin avril. Je crois qu'ils sont à Paris dès le 18 avril. Il y a des photos où on les voit participer à une manifestation. Les autres détenus restent encore un moment ici et sont soignés par les Américains. Peu à peu, ils rentrent tous chez eux dans leur pays. Et oui, bien sûr, pour la majorité des détenus, ce jour de la libération est un jour heureux. Mais il y en a aussi qui ne s'en rendent pas vraiment compte, tellement ils sont affaiblis physiquement.
Und da werden dann hier in dem Bereich da oben, das sind so SS-Kasernen, die dann leer stehen und da werden Lazarette eingerichtet und dann werden Häftlinge.
Alors, on installe là-haut dans les anciennes casernes des SS un hôpital. Ils peuvent enfin dormir dans des vrais lits et sont traités comme des êtres humains.
Les 600 corps empilés par les SS dans la cour du crématorium, faute de charbon ces derniers jours, avaient été déplacés. Il n'en restait qu'une centaine, et le lieu avait été désinfecté de la mort. L'hôpital souterrain fonctionnait bien, mais il en mourait 150 par jour. Parmi les papiers officiels du camp éparpillés partout, il y a les comptes. Pas en Deutschmark, pas en heures de travail, mais en nombre de morts. Chaque mois depuis le premier jour de l'année, on atteignait 5000 voire 6000 morts. Pour avril, le relevé ne couvrait qu'une semaine et quelques jours. 600 morts. Je n'ai rencontré personne qui connaissait les vrais chiffres, mais il était évident depuis la cour du camp que le bilan était supérieur au livre de compte. Ça fait des années qu'on écoute ces histoires de manque de carburant, des discours d'ingénieurs et de ministres qui nous expliquent que la Luftwaffe s'écroulait faute d'essence, que les femmes ne cuisinaient plus que deux fois par semaine faute de combustible, qu'ils gelaient et souffraient d'engelures et sont allés couper du bois en forêt. Mais nous n'avons jamais pensé qu'à cause de ce manque, ils seraient incapables de dissimuler les preuves physiques de leurs crimes.
Sie wollen ganz gern da mal rein, ne? Also das ist hier der Arrestzellenbau, dieser Teil.
Holmkirsten ouvre la porte qui mène aux cellules du camp.
Kann sein, dass das jetzt aus. Ja, das ist zu. Ich weiß nicht, ob mein Schlüssel das.
Sur la photo, ça paraît beaucoup plus grand. Vous voyez que c'est en fait tout petit, serré et étroit, mais cet endroit était un des plus horribles, des plus effroyables du camp. Car celui qui arrivait dans le bâtiment des cellules d'arrêt n'en sortait généralement pas vivant. Il faut le dire clairement. Les SS qui régnaient sur ce domaine étaient des sadiques de la pire espèce. Ils avaient toutes les libertés. Ils pouvaient tuer des gens juste pour leur plaisir. Il ne leur fallait pas pour cela un ordre spécial du commandant. Ici étaient internés beaucoup de gens célèbres.
Qu'est-ce qui est écrit ?
Meine Ehre heißt Treue.
Mon honneur s'appelle fidélité. C'est la devise des SS.
Das war jetzt das die ja die Kammer des.
Ici, c'était la chambre du garde SS qui surveillait les détenus dans leurs cellules.
Genau. Hier gab es so rudimentäre sanitäre.
Les installations sanitaires étaient très rudimentaires.
Und ansonsten kommen wir jetzt in diese Zellen.
Nous arrivons dans les cellules. Elles sont en partie fermées, mais on peut jeter un coup d'œil dans certaines.
Da gab's meistens nur so ein Bett zum Runterklappen.
Il y avait la plupart du temps juste un lit pliant et un seau pour les besoins.
Für die Notdurft. Genau, und in diesen Zellen entstehen jetzt diese.
Ces photos ont été prises dans ces cellules.
Diese Aufnahmen. Wir wissen nicht, welche.
On ne sait pas dans laquelle, mais dans l'une d'entre elles. Il y a aussi des photos de détenus qui se sont pendus au tuyau de chauffage. Elles ont été prises ici, mais nous ne les possédons pas. Il en existe une horrible que Lee Miller a prise de très près. On voit la langue tirée. Tout a été photographié ici. Combien de SS ont été faits prisonniers? Cela n'a pas été noté. C'était une époque chaotique après la libération. Et nous en savons trop peu. Encore aujourd'hui, alors qu'on continue à faire des recherches, il faut admettre qu'on ne peut pas dire beaucoup de choses sur tout cela.
D'anciens prisonniers ont reconnu d'anciens SS qui les avaient torturés, déguisés en civils et s'éloignant du camp. S'ils les attrapent, ils leur rendent la monnaie de leurs pièces et les ramènent en prison. Ils sont dans un sale état, mais encore en vie. L'un d'eux ressemble à Hitler. Deux d'entre eux se mettent à genoux et supplient qu'on leur laisse la vie sauve dès que la porte s'ouvre. Trois étaient des espions parmi les prisonniers. Et un SS à bout s'est pendu assis, au bout d'une ficelle accrochée au radiateur. Il a été sorti sur une civière et jeté nu au-dessus de la pile de cadavres squelettiques. Il avait l'air scandaleusement gras, ce bâtard bien nourri.
Les camps de concentration,
Hilary Roberts,
absolute fury, ont déclenché une fureur incroyable. Quand la nouvelle s'est répandue et que les images ont été publiées, les Alliés avaient donné des ordres pour empêcher toute forme de restriction ou de censure. Il fallait que ce soit vu, parce que c'était la seule manière de convaincre les gens que c'était vrai.
Obviously convincing Germany.
Bien sûr, il était aussi important de convaincre les Allemands que c'était vrai. Mais comme je le disais, ça a provoqué une colère viscérale qui a donné lieu à des exactions et des atrocités en représailles. Il y a eu des conséquences.
Germans were shot out of hand.
Certains Allemands ont été exécutés sommairement.
They were beaten up.
D'autres ont été battus ou grièvement blessés.
What this did among for Lee Miller and everybody who was
chez Lee Miller et tous ceux qui étaient avec elle,
to dehumanize completely.
Ça s'est traduit par une sorte de déshumanisation totale des Allemands en général.
Complicit in this, and
ils étaient tous complices. Ce n'étaient pas seulement des criminels. Il y avait quelque chose de monstrueux dans la manière dont ils avaient interné et déshumanisé leurs victimes.
C'est cette cour-là. Celle-ci, mais aussi celle-là, c'est le secteur du crématoire. Il y a aussi plusieurs clichés où on voit, à la longueur des cheveux de certains hommes, qu'il s'agit de SS abattus, couchés par terre. En fait, ils n'ont rien à faire là. Tous ces gens sont morts après la libération. On les met en scène pour les visiteurs. Aujourd'hui, cela peut paraître de mauvais goût. Mais à l'époque, ils cherchaient comment exposer tout cela.
Ausstellungsinszenierung.
Ces morts ont été empilés là-bas volontairement. Les SS n'auraient jamais oublié ces morts. Ce sont des détenus, des hommes et des femmes qui sont morts de sous-alimentation ou de maladies après la libération. On les a donc empilés là et enterrés quelques jours plus tard. Il y a toutes sortes de délégations qui viennent visiter ces lieux. Il y a des visites de soldats américains qui arrivent de partout dans le monde pour regarder ça, pour voir contre qui ils se sont battus et aussi pourquoi. Je trouve cela très important. Il y a par exemple une délégation de la presse américaine qui vient avec le chef du New York Times et d'autres journaux et magazines. C'est à ce moment-là qu'est prise cette photo de cadavre empilé. Ce n'est sans doute pas toujours le même amoncellement de cadavres qu'on voit sur ces photos. C'est à cause de ces cadavres que nous ne savons pas si Lee Miller n'est pas finalement resté quelques jours de plus pour prendre des photos. Nous ne connaissons pas exactement son itinéraire de voyage. Nous savons qu'elle est fin avril à Dachau et à Munich. Cela n'était pas possible plus tôt car ces camps n'étaient pas encore libérés.
Ces photos devraient être immédiatement développées. Je suis sûr que tu n'en veux pas, mais j'imagine que les reportages sur la torture sont nombreux cette semaine.
Und David Sherman?
Ja, David.
David Sherman était-il ici avec Lee Miller?
Je ne crois pas qu'il soit venu ici à Buchenwald. Ou en tout cas, il n'y a pas pris de photo. On ne connaît aucune photo de lui prise à Buchenwald. Mais il y a une grande série de photos prises dans un camp extérieur à Buchenwald. Un camp de femmes qui avait été libéré. Il a fait de nombreux portraits de ces femmes. On a surtout beaucoup de photos d'une survivante hongroise. Il les lui avait offertes et c'est elle qui nous les a données il y a quelques années. Il semblerait qu'ils aient eu une petite liaison amoureuse. On ne sait pas très bien. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Sherman a donc pris des photos dans ce camp extérieur, mais pas ici à Buchenwald. On n'en connaît pas de Buchenwald. Voilà, là c'est le bâtiment du crématoire. Et là, le secteur de la pathologie. On peut y jeter un œil, mais ça a changé aujourd'hui. Je dois regarder d'un peu plus près. Oui, cette photo a en tout cas été prise dans cette cour. Ce qui me gêne, c'est que cette construction n'existe plus telle qu'elle.
Ah oui,
et ça c'est en face. C'est ce bâtiment-là. Cette fenêtre est aujourd'hui cachée. Et l'amoncellement de cadavres a dû se trouver par ici. Il y a eu d'autres mises en scène, là en face. On a aussi empilé des détenus morts récemment.
Ouais.
Il y a encore d'autres photos prises ici. On va y arriver. Voici les fours crématoires.
Sorry. Sag mal. Diese Aufnahme. Das ist hier eine dieser Ecken.
Ce sont des résidus brûlés, extraits de ces fours.
Das sind Verbrennungsrückstände aus den Öfen. Also,
des cendres et des os.
Asche und Knochen. Und, ob das hier Teil einer Inszenierung
Mais je ne peux pas
war,
dire si cela faisait partie d'une mise en scène. Il y a en tout cas beaucoup de photos de cet adossement, car cela était tellement insupportable et effrayant pour toute personne civilisée qui arrivait ici. Il y a quelques personnes qui ont réagi autrement.
Leute, die damit anders umgegangen sind. Wir haben jetzt von der Witwe eines GIs.
Nous avons l'exemple de la veuve d'un GI. Elle nous a envoyé une pochette remplie de cendres qu'il avait à l'époque ramassée avec une petite pelle lors de sa visite, comme souvenir.
Das ist meine persönliche Sicht.
Pour ma part, je trouve cela de mauvais goût, mais c'est mon point de vue.
Genau. Und ich ich habe auch das Gefühl, dass das natürlich auch schon eine Inszenierung ist.
Il me semble que cette photo est aussi mise en scène.
Ja, mit gesenktem Kopf.
Ils se tiennent tous là, comme autour d'une tombe, la tête baissée, les bras ballants.
Für viele dieser Häftlinge sind solche
Pour beaucoup de ces détenus, ces images représentaient le quotidien.
Ja, das ist jetzt schwer zu beschreiben.
C'est difficile à expliquer, mais il fallait développer
eine gewisse Abgebrühtheit.
Un certain endurcissement.
Die war der Tod hier natürlich,
la mort était omniprésente, bien que ce n'était pas un camp d'extermination. On y a assassiné beaucoup de gens. 56 000 au bout du compte.
56 000 pour cette photo.
Ja.
Et Lee Miller demande à ces gens de poser pour la photo.
Das ist Spekulation.
Cela reste une supposition. Je n'en suis pas sûr, mais je peux me l'imaginer, parce qu'ils se tiennent là comme autour d'une tombe. Il est possible que Lee Miller ait dit « Mettez-vous là pour que je puisse prendre une photo ». Je ne veux pas surinterpréter la scène, mais cela pourrait avoir été ainsi.
Okay, und dann
bon.
Gibt's jetzt noch
et il y a encore cette photo-là.
Das ist, wie gesagt, jetzt
je dirais qu'elle n'est pas typique de Lee Miller.
Würde ich sagen, sondern das hat sie einfach noch der Vollständigkeit halber mitgemacht. Das ist jetzt in diesem Bereich. Wir können da gerne auch noch mal reinschauen.
Elle l'a prise pour ne négliger aucun aspect.
Wir können auch gerne einmal hier durchschauen, obwohl Lee Miller hier nichts aufgenommen hat.
On est ici dans le bloc pathologie de Brunwald. C'est encore la photo d'une mise en scène, là, devant le mur en face. On y a accroché des couronnes.
Et c'est eben auch eines der meist fotografierten Motive hier im Lager, weil es natürlich auch
c'est un des motifs les plus photographiés dans ce camp. Justement parce que c'était trop horrible.
Okay. Ja, das ist jetzt der Verbrennungsraum des Krematoriums.
Ici, c'est la salle de crémation.
Ich weiß nicht, da viel kann ich dazu nicht sagen, also
je ne peux pas en dire beaucoup plus. Il existe des photos, pas de Lee Miller, mais d'autres photographes, prises de très près, où l'on peut vraiment voir des restes d'êtres humains. Sur les siennes, on ne les aperçoit que très vaguement.
Leipzig.
L'amour de la mort qui sous-tend la vie allemande a rattrapé les fonctionnaires du régime. Ils ont donné une grande fête, trinqué à la mort et à Hitler, puis se sont empoisonnés. Dans l'une des pièces, il y a un homme aux cheveux blancs, la tête posée sur les mains croisées sur le bureau. En face de lui, une femme, fanée, renversée en arrière, les yeux ouverts, et un filet de sang sur le menton. Sur le sofa, il y a une fille avec des dents extraordinaires. Elle a le teint cireux et poussiéreux. Son uniforme d'infirmière est plein du plâtre de l'hôtel de ville où la bataille faisait encore rage après leur mort. Dans la pièce d'à côté, gît sur le dos le corps monstrueux d'un homme dans son uniforme de Volkssturmgeneral. Il y a un troisième groupe dans la salle de réception. Au sous-sol, deux SS se sont mis à table pour boire du brandy et se suicider. Des vagues de prisonniers libérés affluent dans la ville. Tous portent des fleurs et murmurent au sujet des atrocités commises dans une grange de Tekla le jour où nous avons pris la ville. Les Allemands ont brûlé vifs plus de 700 prisonniers qu'ils ne pouvaient plus transporter. Arrivé à Dachau hier soir, dans le noir et sous les bombes.
Nous sommes entrés avec les troupes de la 45e division.
David Sherman.
Nous étions les premiers photographes à rentrer dans Dachau.
Lee
était horrifié. J'étais horrifié par ce que nous avons vu là-bas. Mais elle était si fascinée par les possibilités photographiques qu'elle continuait à prendre des photos, malgré l'horreur des scènes sous nos yeux. Elle a pris des photos des gardes SS battus par les prisonniers.
Le camp venait d'être libéré par les 42e et 45e divisions d'infanterie. J'y suis allée ce matin. Typique d'un camp nazi. Juste à l'extérieur d'une charmante petite ville. De longs baraquements. La moitié du camp pour le cantonnement de troupes SS. L'autre pour des prisonniers mourant de faim. Ici, le camp est si près de la ville qu'il est impossible que les habitants n'aient pas su ce qui s'y passait. La voie de chemin de fer passe devant quelques villes là cossues, et le dernier train de déportés morts ou presque morts était si long qu'il s'étendait jusque sous leurs fenêtres. Les wagons étaient encore pleins de morts, de squelettes. Le chemin le long du train est couvert de corps sans chair qui marchaient vers leur exécution. Les baraques des SS sont vides, mais les allées autour sont décorées de carcasses de soldats battus. Le chenil des chiens est vide aussi. Seul un chien mort est étendu dans l'herbe. Le crématorium était à court de carburant depuis longtemps. Deux pièces sont pleines de cadavres. La chambre à gaz ressemble à ce qui est annoncé au-dessus de la porte. Bain-douche. C'est là que vont les victimes choisies après avoir suspendu leurs vêtements. Elles s'apprêtaient à se laver et allaient mourir sans qu'aucune trace de crime ne soit visible. Dans les blocs déjà saturés des prisonniers, étaient arrivés des prisonniers évacués des autres camps. Ils se serraient à trois par couchette sans même une couverture. Ils étaient trop faibles pour se lever, marcher, chanter la victoire dans le camp libéré, même s'ils s'efforçaient de sourire depuis le bord de leur paillasse. Pendant les quelques minutes qu'il m'a fallu pour prendre les photos que je vous envoie, deux hommes ont été trouvés morts. Ils ont été sortis et entassés avec les autres sans aucune cérémonie. Ça ne semblait déranger personne à part moi. Le docteur a dit qu'il était de toute façon déjà trop tard pour plus de la moitié de ceux qui respiraient encore. Les corps sont jetés là, et le train qui fait sa ronde chaque jour les ramasse, tels de simples ordures. Le camp était couvert de tas d'habits sales, tas de chiffons souillés, vêtements civils des morts qu'on entasse nus. Des prisonniers rôdaient autour de ces monticules dont certains brûlaient, dans l'espoir de trouver quelque chose de plus présentable que ce qu'ils portaient. Naturellement, au moment où les gardiens du camp ont été éliminés, par des méthodes imaginées par les prisonniers eux-mêmes, les détenus ont pillé les hangars nazis. Seuls les plus costauds ont eu ce plaisir. Ils avaient soudain l'air bien habillés, comparé à la majorité cadavérique et démente. Les prisonniers que vous verrez errant dans le camp, sur ces images, vont plutôt bien. Mais il y en a des milliers sur leurs couchettes qui sont trop faibles pour se rhabiller. Ce camp n'était pas prévu pour les femmes, mais dans leur retraite, les Boches ont évacué d'autres camps et placé là 500 femmes. Elles sont plutôt en bonne santé. Elles étaient de la main-d'œuvre. Quoique maintenant, il y a beaucoup de cas de typhus, et aussi des nouveau-nés, dont beaucoup en mauvais état. Le docteur est une femme de Vienne, emprisonnée depuis 2 ans et demi pour avoir caché des juifs. Elle n'est pas seulement le docteur, elle est la loi. Elle s'appelle Ella Lingens. Elle a un fils de 6 ans qu'elle espère retrouver dans un village d'Autriche, et un mari dont elle n'a plus de nouvelles. La salle est un ancien bordel du camp, elle est donc mieux décorée que d'autres. Seulement 2 couchettes à 4 étages.
Ça, ce sont les planches contact d'origine de Dachau. Elles ne sont pas en ordre parce que les rouleaux de film étaient tous mélangés. Elles ne se suivent pas. Là, on a les femmes détenues. Ça a beaucoup surpris les historiens parce qu'il n'y avait pas de bâtiment pour femmes à Dachau. Ce n'était pas une prison pour femmes. En réalité, ces femmes constituaient la main-d'œuvre forcée de l'entreprise Agfa, à Dachau même. Quand ils ont compris que les Alliés approchaient, les Allemands les ont ramenées dans le camp de Dachau. La plupart n'étaient donc pas là depuis longtemps. Mais elles travaillaient toutes sous la contrainte. Beaucoup ne savaient pas où étaient leurs proches, ni même s'ils étaient encore en vie. Il y a là des images absolument remarquables. Ce n'étaient pas des prostituées. Il y avait des prostituées dans le camp, mais ces femmes n'en faisaient pas partie.
Les gens des photos qui suivent, prisonniers de guerre fouillant les vieux vêtements, camions déchargeant de la nourriture récupérée dans les entrepôts nazis, prisonniers fêtant la liberté sur les toits, baraques surpeuplées, un mort évacué. Département des femmes. Le docteur cajolant une tzigane blessée.
This is a particularly horrific shot here.
Ça, c'est une photographie particulièrement horrible. Elle montre deux GI en train d'ouvrir les portes d'un wagon. Et tandis que les portes s'ouvrent, les corps qui étaient entassés contre la paroi dégringolent à l'extérieur. J'ai rencontré un médecin français qui avait assisté à la scène. Il m'a raconté qu'il était censé documenter ces événements. Il m'a dit « Lee Miller a pris les photos que je n'arrivais pas à prendre. Quand les corps ont dégringolé, c'était tellement insoutenable que je suis allé vomir dans les buissons. Mais elle est restée là, appuyée encore et encore sur le déclencheur. Elle est même montée dans le wagon pour faire une photo depuis l'intérieur. » Ces photos sont affreuses. Sur celle-ci, on voit un wagon ouvert rempli de cadavres. Il y avait un survivant. Ce train avait quitté Buchenwald avec près de 3000 personnes à bord un mois plus tôt. Et ils ont trouvé un unique survivant qu'ils ont sorti de ce côté-là. C'était le seul à avoir survécu. Quand on y pense, ça paraît difficile à croire, toute cette horreur. Comme je disais tout à l'heure, nous avions beaucoup d'amis qui étaient juifs ou dissidents, des gens qui étaient dans le viseur des nazis. Chaque fois qu'elle voyait quelque chose comme ça, elle associait la scène à ce qui était arrivé à ses amis disparus. Rien d'étonnant à ce qu'elle ait fini par craquer.
Wagon empli de corps. Ne confondez pas les corps gras des SS dans l'un des wagons avec ceux des autres prisonniers. Il y avait des dizaines de SS morts, tués dans la bataille et par le soulèvement des prisonniers eux-mêmes. Beaucoup flottaient dans leur tenue de camouflage dans le petit canal qui délimite le camp. Ils dérivaient avec leurs fusils et deux chiens morts. N'oubliez pas qu'à Dachau était détenue la crème de la crème. À peu près tous des prisonniers politiques. On espère en retrouver quelques-uns, mais les Boches les ont probablement emmenés avec eux à Munich pour en faire des otages. Il y a parmi eux des journalistes et des anciens ministres. Les soldats sont encouragés à se balader, à prendre des photos pour raconter ce qu'ils ont vu lorsqu'ils rentreront chez eux. Finalement, à la mi-journée, seule la presse et les médicaux étaient autorisés à rentrer dans les baraquements, car trop de soldats s'effondraient et tombaient malades à la vue des détenus. Demain, Munich.
À Munich, on a trouvé un vieil homme qui parlait un peu anglais. On lui a donné des paquets de cigarettes et il nous a baladés. Il nous a montré l'appartement d'Hitler, l'appartement d'Eva Braun. Et Lee et moi, nous avons photographié le crépuscule du Munich d'Hitler. On a emménagé avec quelques soldats de la 45e division dans l'appartement d'Hitler.
Je vivais dans les appartements privés d'Hitler quand sa mort a été annoncée. Un immeuble ancien et ordinaire, au 16 Prinzregentenplatz. Rien n'indiquait qu'avaient vécu là des hommes autrement plus importants que des marchands ou des retraités du clergé. À première vue, toute personne à revenu moyen et sans héritage pouvait être propriétaire d'un tel appartement. C'était pourtant un poste de commandement. Ça manquait de charme, d'intimité, ce n'était pas immense et pas assez vide pour être sous-loué. Un tri des placards, et notamment des armoires à pharmacie, aurait permis de le louer à un nouveau locataire que l'argenterie et les draps marqués des initiales AH ne dérangeraient pas. Au deuxième étage, un appartement spacieux et simplement meublé. Côté rue, trois pièces qui communiquaient. À gauche du salon, une bibliothèque pleine de livres aux reliures magnifiques, des volumes ouverts, signés, et pleins de meilleurs vœux pour le Führer. Mais l'endroit est inintéressant puisque tout ce qui avait une valeur personnelle a été évacué. Juste un tas d'uniformes qui venaient probablement d'être soumis à son approbation car il n'apparaissait dans aucun catalogue. À côté, derrière deux doubles portes, était l'endroit où Hitler organisait ses conférences. Chamberlain s'est assis ici. Et Franco, Mussolini, Goebbels, Göring, Laval. Toute une série de noms qui ne reconnaîtront jamais le mal qu'ils ont fait. Sa chambre était tapissée de toiles Schintz, le lit aussi. La table de nuit avait une commande électrique avec laquelle il pouvait appeler soit le valet, soit la femme de ménage, soit le garde. Il y avait un coffre-fort couleur crème dans le coin. La salle de bain attenante avait été entièrement meublée d'après catalogue et donnée sur une autre petite chambre où résidaient les amis du Führer de passage en ville.
Et Lee, je me souviens, a pris un bain dans la baignoire d'Hitler. Elle n'a pas pris la photo elle-même, ce doit être quelqu'un d'autre. Ce doit être moi. Elle a aussi pris une photo de moi dans la baignoire. J'avais complètement oublié. C'est incroyable. Elle a pris une photo de moi dans la même baignoire. Elle posait comme un ancien modèle. C'était juste une pause. On a eu de la chance. Et surtout, on ne savait pas que c'était la fin. On ne savait pas combien de temps Hitler allait tenir à Berlin. Ça pouvait durer un mois, deux mois, trois mois. En fait, c'était une question de minutes, parce qu'Hitler s'est rendu alors qu'on était dans sa baignoire.
Tout au bout de l'appartement, il y avait un petit appartement séparé. Pas aussi bien meublé, mais plus intime. À part le tableau électrique au mur qui permettait d'appeler directement Berlin, Berchtesgaden. Le colonel Grace a tenté d'appeler Berchtesgaden. L'opérateur de Munich, qui n'avait à l'évidence pas encore été arrêté, a fait la connexion, mais personne n'a répondu. De toute façon, Hitler n'était plus là-bas. C'était ici ses vrais appartements. Malgré le nid d'aigle à Berchtesgaden et ses quartiers généraux dans les différentes villes. Munich était sa résidence principale, physique et spirituelle. Et j'ai commencé à chercher ce qui s'était passé là. Au rez-de-chaussée vivait une femme allemande, Madame G, qui avait acquis la nationalité britannique en se mariant. Ses parents avaient vécu là 20 ans et étaient morts un an plus tôt. Elle avait hérité de l'appartement et de la cuisinière. Elle parlait un excellent anglais. Je l'ai harcelée pour qu'elle m'emmène vers l'étage des domestiques. L'attitude de ces Allemands était étrange. Ils parlaient très calmement de Hess, le plus charmant des hommes, d'Hitler, un grand homme avec de bonnes idées, mais mal conseillé, entouré de gangsters. Aucun Allemand, à moins qu'il n'ait été résistant ou détenu dans un camp de concentration, ne trouve qu'Hitler a eu tort. Sa seule faute, c'est d'avoir perdu. Il aurait dû signer la paix quand l'armée russe était en déroute. Je ne pense pas qu'un jour ils comprendront, et je sais que jamais je ne les comprendrai. Au début, je pensais que c'était parce que je ne parlais pas leur langue. Je sais maintenant que ça ne ferait aucune différence. J'étais comme les soldats autour de moi. Nous regardions ces magnifiques paysages autour. Nous occupions ces appartements modernes et confortables. Et nous nous demandions ce que ces Allemands voulaient de plus. Pas très loin de là, au 12 Wasserburger Straße, il y avait la petite villa d'Eva Braun, tout en stuc, à l'image des autres maisons de ce quartier moderne de Munich. Tout l'ameublement et la décoration venaient directement des grands magasins. Comme partout dans le régime nazi, c'est impersonnel, mais avec un certain style et plutôt de bon goût. Façon intérieure moderne de banlieue. Son lit était tapissé de satin bleu. Ses draps en lin brodé de ses initiales, E.B. J'ai fait une sieste dans son lit et essayé les téléphones. Sur le premier était écrit Berlin. Sur le deuxième, Berchtesgaden. Sur le troisième, Bachenfeld. Le nom de la propriété d'Hitler dans la montagne au-dessus de Berchtesgaden. C'était confortable, mais macabre de s'allonger derrière les deux fenêtres barricadées et blindées de la pièce, et plus encore de se laisser aller sur les oreillers d'un homme et d'une femme qui venaient de mourir, tout en étant heureuse qu'ils soient morts. Je me suis demandé quel collectionneur allait récupérer la grande planisphère sur la table du salon. Les continents y étaient martelés en relief. Des gonds permettaient de l'ouvrir et d'y ranger des verres à liqueur. Mais ce jour-là, elle était vide. Il ne restait plus que les traces des verres et de tous les toasts portés à la conquête du monde.
Si on regarde cette image de plus près, il y a beaucoup d'informations à en tirer. C'est Sherman qui a pris la photo. Elle pose de manière à dissimuler sa nudité. On ne voit pas ses seins. Elle savait parfaitement que si elle montrait ses seins, la photo ne serait pas publiée. D'où cette pudeur. Sur le rebord de la baignoire, il y a une photo d'Hitler en grand uniforme, l'air très fier de lui. En réalité, ce cliché avait circulé dans toute l'Allemagne. C'était un des portraits officiels de la propagande nazie. Il en existe deux versions. Sur l'une d'elles, on peut lire « Ein Reich, ein Volk, ein Führer »,« Große Deutschland »,« Une nation, un peuple, un chef, grande Allemagne ». Quoi qu'il en soit, Lee a posé ce portrait-là parce qu'elle tenait vraiment à insulter les nazis et leur propagande. Elle savait qu'on reconnaîtrait aussitôt une image phare de la propagande nazie. On sait que le matin même, elle avait porté ses bottes à Dachau. Elle ne l'a pas écrit, mais on sait que c'est vrai, et Sherman me l'a confirmé. Ces bottes déposaient la boue, les cendres, toute l'humiliation et la dégradation de Dachau dans le petit appartement bien propre d'Hitler. D'une certaine façon, c'est une souillure. Elle l'insulte. Elle profane le lieu le plus intime de son existence, la salle de bain. Je trouve ce cliché exceptionnel, parce qu'il a l'air spontané, alors qu'en réalité, il est soigneusement mis en scène.
Ce qui est très fort dans cette photo, c'est bien sûr le combat contre Hitler, mais aussi le fait qu'elle soit nue dans la baignoire. C'est l'ancien mannequin, l'autre Lee.
C'est le moment où l'ancien mannequin de mode, la femme sublime adulée du tout Paris et du tout New York, boucle enfin la boucle, assise dans la baignoire d'Hitler. Et c'est d'autant plus poignant qu'à 16h45 cet après-midi-là, à l'autre bout de l'Allemagne, à Berlin, Hitler et Eva Braun venaient de se suicider. D'une certaine façon, c'était l'avènement du nouvel ordre. C'était une nouvelle vie qui commençait à cet instant même. Bien sûr, ça n'a pas été le cas, mais c'est ce qu'elle devait ressentir à l'époque.
J'étais la première correspondante de guerre à atteindre Berchtesgaden. Personne ne savait si c'était tombé ou non, alors j'ai pris la route. J'ai croisé des Allemands dispersés et prêts à se rendre au 7e régiment d'infanterie de la 3e division, qui avait ordre de prendre ce haut lieu en quelques heures. Le commandant du régiment, le colonel John Hanks, avait installé son quartier général dans un charmant petit hôtel sur la colline, et le lieutenant-colonel Kenneth Wallace, commandant du bataillon qui avait lancé l'assaut, s'était installé dans l'hôtel poste. C'est de là que j'ai vu la fin de la guerre. Un panache de fumée qui s'échappait des ruines du refuge d'Hitler dans la montagne. Le périmètre avait été lourdement pilonné, le versant de la montagne était couvert de cratères. Les maisons étaient écrasées comme des coquilles d'œufs, mais celle d'Hitler tenait encore debout, le toit vaguement de travers, et l'incendie, déclenché de l'intérieur par les SS, débordait par les fenêtres, tel un salut final. J'ai rampé le long des creux et des bosses laissés par les bombardements. J'ai vu les débris de la maison de Göring, la hampe vide du drapeau nazi. Les SS, dans leur fuite, avaient emporté la Svatiska. Ils étaient censés avoir reculé vers la fameuse maison de thé, sur le plus haut sommet, pour y attendre la mort ou le suicide. Mais ce n'était pas le cas. Les tanks qui sont montés n'ont trouvé personne. Ils avaient fui par les bois. En bas, dans la vallée, la ville charmante et calme. Le coucher de soleil teintait les sommets enneigés qui brûlaient encore. Deux autres feux avaient démarré sur les pics opposés, tels des balises lumineuses. Les soldats, dans leur jeep, restaient prêts à tirer, parce que nous étions une parfaite cible pour les derniers nazis enragés. Les quelques Allemands que nous avons croisés étaient des soldats qui ne demandaient qu'à se rendre. Devant le quartier général du commandement, il y avait une longue file d'anciens de la Gestapo en civil. Le dîner que nous a servi le restaurant avait probablement été commandé par eux le matin même. Le lendemain matin, l'incendie était éteint, les pilleurs étaient là en force et légalement, puisque tout était propriété de la Wehrmacht. Les tanks français étaient finalement arrivés. Ils avaient manqué leur chance de faire l'histoire. Ils s'étaient gênés les uns les autres et s'étaient retrouvés dans un embouteillage. Mais bien qu'ils n'aient pas atteint l'objectif les premiers, les Français proclamèrent que c'était leur périmètre et qu'ils ne laisseraient pas flotter le drapeau américain seul sur la colline.
C'était le 4e épisode de la Grande Traversée des Miller, avec Anthony Penrose, Holm Kirsten, Hilary Roberts, et les voix d'Evelyne Guimara, Laurent Lederer, Clara Chabalier, Joachim Salinger. Prise de son, Andreas Jaffré. Mixage, Guillaume Ledu. Traduction, Céleste Carlin, Jeanne Guéroux. Réalisation, Gaël Gillon. Une émission de Judith Pérignon.